cried and the poor little things.
Maintenant, le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Pour ce sixième et dernier épisode de Touche pas à mes droits pour la session d'automne 2021. Donc, on aborde aujourd'hui le sujet du droit de l'immigration et de la discrimination systémique. Je suis accompagnée de ma co-animatrice Dahlia, ainsi que de notre invité, Maître Jouman El Asmar, que je présenterai dans un instant. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier la Ville de Montréal pour sa généreuse contribution. Et je rappelle que Touche pas à mes droits est un projet en collaboration avec Neolabs et les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Donc, je vais vous présenter notre invité aujourd'hui. On aborde ce sujet avec Maître Jouman El Asmar, qui est avocate en droit de l'immigration et des réfugiés. Elle est diplômée en droit de l'UQAM et est membre du Barreau du Québec et de la Law Society of Alberta. Elle est également membre du Jeune Barreau de Montréal, de l'Association canadienne des avocats musulmans, d'Avocats sans frontières et de la Société québécoise de droit international. Également, de 2020 à 2021, elle siégeait en tant que membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Et en octobre 2021, elle a été élue comme membre du comité exécutif de l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, qui est un organisme pan-canadien qui agit à titre de voix nationale, informée sur les réfugiés et les droits humains et promet le traitement juste des réfugiés au Canada. Donc, Maître El Asmar, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue à notre podcast.
Merci de m'avoir invité, Lina, Dahlia et toute l'équipe de la clinique juridique Saint-Michel. C'est très apprécié.
Merci d'être avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel, notamment pourquoi est-ce que vous avez choisi de pratiquer en droit de l'immigration, puis à quoi est-ce que ça ressemble un peu votre pratique?
Oui, pas de problème. Donc, le droit de l'immigration, ce n'est pas un domaine qui est enseigné à l'université au niveau du baccalauréat en droit. Ni en fait comme cours spécialisé à l'École du barreau du Québec. Donc, c'est vraiment un domaine que j'ai appris moi-même, de par moi-même. Par contre, durant mon stage, le cabinet où j'ai fait mon stage du barreau, c'était une équipe qui pratiquait en droit de la famille et en droit de l'immigration et le droit criminel. Donc, j'ai eu un peu... je dirais un peu d'exposition à ce domaine, mais je ne l'ai jamais vraiment étudié en profondeur jusqu'à temps que j'ai terminé mon stage. C'était en mars 2018. À ce moment-là, j'ai décidé tout de suite d'ouvrir mon propre cabinet en pratique solo et de travailler pour moi-même, de pratiquer pour moi-même. Et j'ai commencé avec les mêmes domaines que j'ai fait mon stage, qui sont le droit de la famille et le droit de l'immigration. Petit à petit, ma pratique en immigration commençait à s'agrandir, surtout avec, je dirais, le flux des réfugiés qui est rentré à Montréal entre 2017 et 2018. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de dossiers à gérer et ça devenait de plus en plus intéressant. Il y avait plus de questions juridiques, d'actualité qui, dans ce domaine, plutôt plus que dans le droit de la famille. Et finalement, j'ai décidé de continuer exclusivement avec l'immigration, le droit des réfugiés. C'est quelque chose que j'ai continué à lire et à apprendre moi-même. Et le plus qu'on y va en profondeur, le plus qu'on réalise que c'est très, très vaste comme sujet, le droit des réfugiés, parce que ça touche au droit international, au droit humanitaire, ça touche sur plusieurs conventions internationales et traités entre différents pays et la façon dont ils s'appliquent avec le droit canadien. Donc, c'est super intéressant comme domaine et c'est un domaine aussi, je trouve, très humanitaire vis-à-vis, comment travailler avec les clients et l'aide qu'ils ont besoin. Donc, c'est quelque chose qui vient me chercher et c'est quelque chose que j'aime faire. Je suis passionnée de ça.
Mais c'est super intéressant. Puis, je pense, comme vous le dites, c'est vraiment un domaine où est-ce que, dans tout domaine de droit, l'avocat, il vient vraiment impacter la vie de ses clients, je dirais, de manière générale. Mais j'ai l'impression qu'en droit de l'immigration, on vient impacter la personne d'une manière tellement grande, surtout si c'est ça, la personne veut entreprendre des démarches, elle ne sait pas par où commencer, elle est un peu perdue dans ce grand système qui est notre système juridique. Donc, je trouve que c'est un domaine où est-ce que l'humain est vraiment comme mis au centre, puis c'est ça, comme vous dites, c'est vraiment un très, très beau domaine. C'est dommage que ce ne soit pas enseigné, d'ailleurs, au barreau ou au baccalauréat. Mais je sais que parfois, il y a des cours à option, comme à l'UDM. J'ai pris ce cours pour la session prochaine comme cours à option.
Je suis contente de l'entendre. Ouais. Ça commence à être offert au moins
c'est ça, exactement. C'est super intéressant. Puis justement, c'est dans cette optique-là qu'on va aujourd'hui parler de discrimination systémique / profilage racial. Donc, on commençait peut-être par parler de manière générale de la relation qu'entretiennent les personnes immigrantes avec l'État. Donc, en tant qu'avocate en droit de l'immigration et des réfugiés, comment est-ce que vous évaluez les relations que les personnes immigrantes et les personnes réfugiées, elles entretiennent avec l'État canadien et l'État québécois de manière très générale?
Bon, il faut comprendre premièrement que la plupart des immigrants, des demandeurs d'asile qui rentrent au Canada n'ont pas vraiment d'interaction avec l'État et les autorités policières du pays, sauf, c'est sûr, pour le contrôle qui se fait à la frontière, à l'entrée et à la sortie. Autre ça, une fois que cette étape est franchie, ils rentrent dans le pays, ils font leur processus d'immigration. Et pendant, c'est sûr, il y a une interaction vis-à-vis le processus d'immigration, les formulaires, les choses qui sont demandées. Et pour le demandeur d'asile, ça sera avec la Cour d'immigration du statut du réfugié où ils se présentent devant un commissaire pour qu'ils décident de leur demande d'asile. Mais les interactions avec l'État en termes d'autorité policière, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, en fait. Mais je dirais que de manière générale, ce que je réalise, ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance de la loi. Il faut comprendre que les demandeurs d'asile viennent souvent des pays où ils n'ont pas vraiment accès, à l'éducation post-secondaire. OK? Et c'est rare que même dans leur pays, ils ont eu affaire avec les autorités policières aux États, sauf peut-être pour des choses basiques comme faire une plainte ou quoi que ce soit, à moins que ça soit un demandeur d'asile pour sur base politique ou qui est poursuivi par l'État, ça c'est une question à part. Mais autre que ça, je dirais qu'il y a une grande ignorance. Ils connaissent pas leurs droits, ils connaissent pas les mécanismes, ils connaissent pas le processus. Et je trouve que c'est ici où le rôle de l'avocat vient jouer vraiment une grande importance. Non seulement de l'avocat, je dirais, dans beaucoup de mes dossiers, j'ai aussi d'autres intervenants qui sont là pour aider mes clients, les réfugiés, les demandeurs d'asile, comme les travailleurs sociaux, des médecins, des psychologues. Et parfois, pour une personne, on a toute une équipe d'intervenants autour de lui pour aider cette personne avec son processus, ses démarches auprès de l'immigration. Si on prend l'absence de ces acteurs-là dans le processus de demande d'asile, oui, c'est certain, il n'y a pas de connaissances, ils ne savent pas quoi faire, ils seront vraiment, vraiment perdus. Et je trouve que c'est là où ça joue aussi la vulnérabilité de ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, avocats, consultants en immigration ou des gens qui prétendent avoir ce titre-là, qui prennent avantage pour vraiment abuser de ces nouveaux arrivants au Canada. Et c'est ça que je trouve que c'est vraiment triste, parce que même une simple recherche, par exemple, sur le bottin des avocats ou bien sur le bottin des consultants en immigration, ils ignorent comment le faire pour vérifier si cette personne-là est réellement ce qu'elle dit. Donc, oui, il y a de la vulnérabilité sur cet aspect-là à cause de l'ignorance extrême dans les lois, leurs droits et juste le système en général au Canada, comment il fonctionne.
Puis c'est sûr que justement ce type d'ignorance-là après va avoir des conséquences vraiment néfastes comme vous l'avez mentionné. Puis on va en parler un petit peu aussi plus tard. Justement là j'aimerais qu'on aborde aussi justement la relation peut-être qu'ils ont avec la police plus spécifiquement. Donc selon une recherche de la Commission ontarienne des droits de la personne qui nous démontre en fait qu'il y a beaucoup de membres de certaines communautés immigrantes, par exemple la communauté latino-américaine, qui viennent de pays où la répression règne et où les services policiers de l'État sont tyranniques. Donc il y en a certains qui viennent dans le pays avec déjà une crainte de la police, puis font des liens entre répression et État policier. C'est également similaire un peu dans certaines populations somaliennes et dans des populations africaines de manière générale. Quand ils sont témoins d'actes de violence dans leur pays d'origine et qu'ils se retrouvent aux prises avec la même situation ici, ils se disent « Ok, la police, elle est pareille partout dans le monde. » Donc ça vient jouer énormément peut-être sur leur relation qu'ils entretiennent avec la police. Et en plus, avec ce sentiment de méfiance, ben, la plupart des participants de la recherche, ils ont aussi ajouté qu'ils avaient plus confiance au processus mis en œuvre pour traiter des plaintes déposées contre la police ou d'autres organismes comme l'Agence des douanes ou l'Agence de revenus du Canada. Donc, ils avaient l'impression qu'on les empêchait ou on les décourageait de porter plainte. Donc, c'est ça, c'est un peu... Donc, c'est comme une perte de confiance, un manque d'impartialité. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette conclusion de la Commission ontarienne des droits de la personne? Est-ce que ça vous surprend de voir comment certains groupes de personnes immigrantes entretiennent ou voient leur relation avec la police?
Tout à fait. En fait, non, j'ai lu le rapport dont vous faites allusion et je n'étais pas surprise du tout, en fait. Et oui, c'est quelque chose que j'ai vu avec ma clientèle aussi, ou bien juste moi-même faisant partie d'une communauté minoritaire au Canada. Je sais qu'à travers les histoires qu'on entend lorsqu'on essaie de grandir, que c'est ça le cas ici. Mais je dirais que oui, en termes de porter plainte ou faire... faire appel à cette autorité policière, c'est sûr qu'il y a une méfiance. Parce que, comme je dis, ça revient à l'ignorance, toujours. Ça tourne autour de ce sujet. C'est qu'ils ne savent pas c'est quoi le rôle de la police au Québec, au Canada. Comme vous dites, ils viennent de pays où il y a toujours des régimes répressifs. Donc, ils pensent que, OK, la police a vraiment tous les pouvoirs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, je n'ai aucun mot à dire. Et si ils dépassent les limites de mes droits, de ce qui est correct, ben c'est juste comme ça. Et moi, je peux pas me plaindre, je peux pas dire à personne parce que de toute façon, eux, ils sont l'État, c'est eux le pouvoir et moi, j'ai rien à faire envers eux. Là, moi, je parle pas des comités issus de minorités qui sont nés, qui ont grandi au Canada. C'est une autre... C'est un peu une dynamique différente, mais je pense surtout des nouveaux arrivants et des demandeurs d'asile qui ont cette peur, cette appréhension envers la police. J'ai eu des cas où quelques clients ont été maltraités à la frontière, c'est-à-dire en faisant le contrôle de sécurité avec les agents de services frontaliers du Canada. Il faut comprendre que ces agents-là, ils ont un pouvoir discrétionnaire à 100%. Parce que leur rôle, c'est le contrôle de la sécurité des frontières du Canada. Donc, ça, c'est un rôle que le gouvernement, il donne extrêmement d'importance et ils n'ont pas beaucoup de supervision sur leur comportement. Alors, oui, j'ai quelques cas de clients qui se sont fait maltraiter à la frontière, physiquement, abus psychologiques, même, tu sais, ils confisquent leur propriété personnelle, leurs documents. Parfois, c'est pour des raisons valables. Parfois, il n'y a pas de raisons valables. Et c'est sûr, quand ils me demandent ou on essaie de faire quoi que ce soit envers cette autorité-là, je leur dis, ben pour les documents, c'est quelque chose, mais pour vraiment les mauvais traitements, oui, il y a un processus de plainte, mais est-ce que c'est vraiment effectif? La réalité, c'est non. Ce n'est pas effectif. Parce que ça c'est un corps gouvernemental qui a vraiment un pouvoir discrétionnaire, ils agissent presque avec impunité à la frontière. Maintenant, pour ce qui est de la police qu'on retrouve dans l'État, les polices de la ville, oui, c'est sûr, il y a une certaine méfiance envers eux, mais en même temps, je pense que malgré l'ignorance de leurs droits, mes clients qui ont vécu ben, quoi que ce soit, ou ils ont eu des interactions avec la police, ils n'hésitent pas de m'en parler. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'ils aient ces intervenants-là dans leur vie à qui ils font confiance et à qui ils peuvent peut-être relater de certains événements. Par exemple, j'ai beaucoup de clients qui viennent me dire que je suis partie pour louer tel ou tel logement. Le propriétaire n'a pas voulu, ou bien en me parlant au téléphone, il m'a dit « OK, il m'a donné rendez-vous ». Quand je me suis présentée sur les lieux, il n'a pas voulu signer le bail avec moi. Ou bien des demandeurs d'asile qui ont été embauchés par des agences, qui les font travailler dans différentes compagnies et ensuite ne sont pas payés pendant 2 mois, 3 mois. Et là, ils doivent aller être embauchés par une autre agence. C'est sûr que oui, il y a de l'abus qui se passe, mais le fait qu'ils ont ce lien de confiance avec moi, avec leur travailleur social, avec les autres intervenants, parfois je peux intervenir. Je peux écrire des lettres au régime du logement. Je peux leur informer que non, ça c'est contre la loi. Ils n'ont pas le droit de vous faire travailler sans vous payer ce qui est dû. Alors si c'est pas moi, je travaille pas, je fais pas des dossiers de droit du travail, mais moi je peux leur guider par exemple à la commission des normes d'équité droit du travail. Je peux leur guider vers d'autres collègues qui travaillent dans certains domaines. J'ai un collègue qui était dans le bureau proche du mien qui travaillait en droit du logement. Je lui ai transféré beaucoup de clients qui avaient des problèmes avec leurs locataires, les propriétaires des logements. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est très, très important de vraiment aider ces gens-là, d'avoir une place dans la société où ils peuvent se sentir en sécurité pour venir exprimer les genres d'abus ou d'altercations qui arrivent dans leur vie de tous les jours.
Puis je trouve aussi, c'est de là aussi toute l'importance justement du rôle de l'avocat. Puis c'est comme un rôle d'accompagnement aussi de ces personnes-là, pas juste le côté juridique, mais comme vous dites, juste de dire « Oh non, tu sais, ça, c'est pas normal. Ça aussi, ce que tu vis, tu sais, c'est pas normal et tout. » Donc, c'est vraiment intéressant. Puis justement, quand on parle, par exemple, vous avez parlé des cas en logement, où il y a comme de la discrimination, etc., ben, le profilage racial, c'est un type de discrimination systémique qui est en lien aussi avec le racisme systémique. Puis en fait, c'est ça là, vous avez parlé un peu du logement, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de discrimination systémique dont peuvent être victimes les personnes immigrantes? Est-ce que c'est plutôt, par exemple, au niveau de l'emploi? Vous avez parlé un peu du domaine du logement. Donc...
Oui, écoute, certainement, le racisme systémique, ça se trouve dans toutes les couches de notre société et ça se trouve dans tous les domaines de la société aussi, que ce soit en emploi, avec les services administratifs, avec les écoles, avec la régie du logement. Par exemple, parfois, j'ai des clientes que dans la garderie, je dirais beaucoup de mes clientes demandeurs d'asile sont mères célibataires. C'est ça la réalité de leur situation. Et ils viennent toujours vers moi pour me dire que les garderies se plaignent de leurs enfants, que leurs enfants sont trop actifs, que leurs enfants ils sont troublés, qu'ils doivent aller consulter. J'ai tellement de clientes qui ont été référées au CLSC pour consulter avec des intervenants car leurs enfants sont problématiques. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est une situation de profilage racial? Parce qu'ils voient, par exemple, une mère de race noire, mère célibataire, qui peut-être elle n'a pas beaucoup de sous. Ils savent le statut, c'est sûr, parce que quand ils inscrivent l'enfant, ils savent que c'est l'enfant d'un demandeur d'asile. Alors, ils ont ce préjugé envers eux. 100%, je ne doute pas que c'est pour cette raison. Comme j'ai donné l'exemple aussi de mes clients, qu'ils ont été embauchés par des agences, qu'ils se sont pas fait payer pour le travail qu'ils ont accompli à la régie du logement. Je dirais aussi que on a parlé un peu des agents ASFC à la frontière aussi, que ce soit en fait, je dirais même les clients immigrants qui rentrent sur un permis de travail ou un permis d'études. Donc, pas nécessairement des demandeurs d'asile, mais vraiment des résidents temporaires. Ils me racontent des histoires de leur interrogation à la frontière, des questions qui sont peut-être mal placées. Ils me disent parfois, j'ai eu l'impression que j'ai été interrogée comme un criminel, que moi, c'est pas comme si je rentre au Canada avec 100 000 $ dans mon compte en banque pour étudier comme un étudiant à l'université. Je suis interrogée comme si je suis un criminel, comme si j'ai fait quelque chose de mal. Et ils ont de la difficulté à rentrer et sortir. par exemple, sur leurs différents votes. Toujours, je leur dis toujours, avant de quitter, par exemple, vous êtes là pendant quelques années, vous avez fait des études, vous allez retourner en vacances, par exemple, voir les membres de leur famille. Je leur dis tout le temps de s'assurer que tous leurs papiers sont en ordre. Ils ont l'inscription pour la session prochaine. Outre le visa dans le passeport, ils ont le document de voyage qui leur permet de rentrer et de sortir. Ils ont les notes de la session précédente pour montrer qu'ils étaient étudiants et sont en train de continuer. Peut-être que ça, c'est des choses. C'est pas dans la loi. C'est pas écrit dans la loi qu'il faut avoir ces papiers avec toi quand tu voyages. Mais il faut toujours leur dire d'aller au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter d'avoir des problèmes. Donc oui, c'est sûr, ça fait partie d'une perception biaisée, des préjugés, du racisme systémique. Mais une chose que je voulais mentionner aussi, et j'ai oublié de le dire avant, je pense aussi, outre l'ignorance, il y a quelque chose qui entoure, je dirais surtout les demandeurs d'asile, ils ont cette peur, vraiment, parfois, je dirais, déraisonnable de déportation. OK? Ils pensent que n'importe quoi qui arrive, n'importe quelle altercation avec la police ou bien l'administration ou même les services publics, s'il y a quelque chose que, vous savez, on leur parle d'une certaine manière et ils veulent répliquer, mais après ils pensent dans leur tête, ils disent « Ah non, je veux pas parce que ça se peut que cette personne va se plaindre à Immigration Canada puis je vais me faire déporter. » Ils pensent que c'est tellement facile. Ils savent pas que pour arriver au point de la déportation, c'est tout un processus. Vous savez, c'est pas n'importe qui peut aller appeler immigration pour faire déporter cette personne-là. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ils ont vraiment cette peur ancrée dans eux du retour dans leur pays. Parce que ça, c'est des gens qui ont vécu des horreurs dans leur pays d'origine et ils veulent pas y retourner, genre, no matter what. Donc, ils ont vraiment cette peur et je vois ça. Quand je leur dis, il faut aller telle ou telle chose ou faire telle ou telle procédure, ils disent, OK, mais si je fais pas ça, est-ce que je vais être déporté? Non. C'est pas comme ça, tu vas pas être déporté, mais c'est juste que c'est ça la façon qu'on fait les choses ici, par exemple. Donc, c'est sûr que ça joue aussi dans leur esprit chaque fois qu'ils ont une interaction avec n'importe qui est en position d'autorité dans la société.
Mais c'est vraiment dommage. Puis je me demandais justement, quand vous parliez, par exemple, des étudiants qui viennent ou qui ont un visa de travail ou d'études, puis qui... C'est que vous leur dites, OK, mais make sure que tu as tous tes papiers, que tu es prêt, tout ça. Est-ce que c'est la même chose pour, vous direz, tous les étudiants étrangers, on va dire, qui viennent, ou c'est vraiment, on va dire, les étudiants étrangers racisés? Ou est-ce qu'un étudiant étranger français, est-ce qu'il va pas vivre ça, là? OK, c'est ça.
Non, pas du tout. Premièrement, les Français, les Belges et les pays européens, ils ont tellement d'ententes d'immigration avec le Canada. Bref, ils peuvent rentrer et sortir avec ce qu'on appelle une autorisation électronique. C'est même pas un visa. Ils ont même pas besoin d'un visa. Ils prennent leur autorisation électronique en ligne. C'est un simple processus. Ils rentrent dans le pays n'importe quand qu'ils veulent. Et il y a des programmes aussi où on leur donne des permis de travail. On leur donne la chance. Peut-être il y a de certains ordres qu'ils ont des ententes avec des universités en Europe pour faire un échange d'étudiants. C'est la vie est belle, vraiment. Tout est facilité, tout est bien pour eux. Non, moi, je parle, comme vraiment tu as dit, c'est des gens qui sont issus de pays, on va traiter les pays africains, les pays du Moyen-Orient, les pays sud-asiatiques. C'est eux vraiment que, je dirais, il faut vraiment faire attention à la frontière, faire attention avec leurs papiers. Et aussi pour les fouilles, ça, c'est une autre chose qui est arrivé à un de mes clients. Il s'est fait fouiller pour aucune raison. Son téléphone s'est fait fouiller, son ordinateur s'est fait fouiller. Il n'y avait pas, je demandais, est-ce que tu as dit quelque chose? Est-ce que tu as fait quelque chose? Quoi que ce soit. Il m'a dit non. Ah, OK, tu viens de quel pays? Je viens de tel ou tel pays. Bon, ouvre-moi ton ordinateur, ouvre-moi ton téléphone. Qu'est-ce que tu es parti faire? Je suis parti visiter mes parents. Où est-ce que tu es parti? Montre-moi tes photos. Et il m'a vraiment dit, il m'a dit, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je suis un criminel ou est-ce que ça, c'est normal? Je lui ai dit, non, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Oui, c'est un droit qu'ils ont. Oui, ils ont ce pouvoir, mais je t'assure, ça n'arrive pas aux étudiants de la France. Ça, c'est sûr, on va se mettre d'accord sur ça. Alors, c'est triste parce que parfois, c'est un peu comme les immigrants, les gens issus de la minorité qui vivent ici, il y a des choses qu'ils se disent, ben, je dois apprendre à vivre avec. Okay? C'est pas toutes les choses qu'on peut peut-être se plaindre ou contester. Oui, peut-être on peut. Il y a le processus, c'est mis en place, mais nous, on sait que ça ne va pas aller nulle part. Vous savez, c'est un peu différent avec la police. Je trouve que le système de plainte avec la police de la ville, même si beaucoup de fois ça aboutit à rien, mais ils ont vraiment un processus bien détaillé, puis ils font des suivis, ou bien même s'ils font semblant de faire des suivis, mais au moins il y a un processus à suivre. Avec les agences services frontaliers, non, c'est vraiment, il n'y a vraiment rien là. Puis même les avocats, ça fait un bon bout de temps qu'ils sont en train de lobbyer le gouvernement pour dire qu'il faut mettre en place un corps pour superviser ces agents-là. C'est pas vrai qu'ils ont 100% le pouvoir discrétionnaire et ils agissent avec impunité. Ce n'est pas correct parce qu'il y a des abus de droits humains. Mais le gouvernement a toujours été réticent. Non, ça, c'est vraiment les gens qui contrôlent notre frontière, qui contrôlent notre sécurité et on ne veut pas les limiter dans leurs agissements, dans leurs comportements. Donc, oui, c'est ça. Et en fait, je voulais aussi mentionner quelque chose que durant la pandémie, j'ai eu beaucoup de clients aussi qui m'ont informé et aussi parce que c'était dans les nouvelles aussi. Ils ont eu vraiment des altercations augmentées avec la police. Je dirais mes clients qui habitent à Montréal-Nord, à Montréal-Est, dans ces régions-là, ils me relataient qu'il y avait beaucoup plus de patrouilles policières, surtout lorsqu'il y avait le couvre-feu, qui rentraient dans les immeubles pour voir s'il y avait des rassemblements. Ils donnaient des tickets, des contraventions à gauche et à droite pour ces gens-là. J'ai eu un client qui a eu une contravention de, je pense, 1 200 $ parce qu'il était dans la voiture en train d'attendre que sa femme descende de l'appartement. Puis ils lui ont dit, ah, elle est où ta femme? Il dit, ben, elle est en haut à la maison. Elle dit, ok, elle est chez qui? Ah, elle est chez sa sœur. Ah non, pas droit de rassemblement. Ben, il l'a déposé pour 2 secondes pour qu'elle prenne quelque chose, mais on l'a attrapé à ce moment-là, on lui a donné 1 200 $ de contravention. Est-ce qu'on aurait fait ça si c'était un homme blanc à Westmount? Non. Donc, et pour un demandeur d'asile qui travaille au minimum, 1 200 $, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et il n'était pas le seul. J'ai eu un autre aussi qui a eu un billet parce que il est sorti au dépanneur après le couvre-feu pour chercher du lait ou, je pense, du pain ou quoi que ce soit pour son enfant. Donc, il y avait vraiment, c'était « no mercy ». C'était vraiment, on est là, puis on va tout voir. Puis ils sont en train de, pour montrer comme quoi, oui, eux, ils prennent ça au sérieux, la pandémie, ils prennent ça au sérieux, le couvre-feu, puis, tu sais, on a peur pour la santé et la sécurité de tous. Puis c'est clair que non, c'est pas ça. C'était juste une autre excuse pour rentrer dans ces quartiers, pour montrer leur pouvoir et faire le profilage racial qu'ils aiment faire souvent, tu sais.
Je pense que Dalia voulait intervenir. Je ne vais pas te couper la parole.
Oui, c'est juste pour revenir par rapport à cette peur de déportation. J'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que vous croyez que peut-être les médias puis les préjugés sociaux, c'est ce qui pousse ces nouveaux immigrants pour penser qu'ils peuvent se faire déporter si facilement? Parce qu'on voit des fois, on entend des fois dans les médias, si vous faites quelque chose, on va vous faire déporter. Comme c'est même devenu des blagues dans notre société. Donc, est-ce que vous croyez que cette peur provient des préjugés des membres de notre communauté ou peut-être de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux?
Bon, premièrement, c'est sûr que les médias, ils véhiculent aussi ces préjugés et ils alimentent les flammes du racisme et de la discrimination. Ça, c'est quelque chose que nous trois, en tant qu'issus de membres minoritaires, on sait que c'est la réalité. Alors oui, c'est encore pire quand c'est pour comment on porterait les demandeurs d'asile. Surtout qu'il y a toujours ce rhétorique autour des demandeurs d'asile qui rentrent et ils prennent tous les services du gouvernement, puis c'est nous qui payons les taxes, puis ils sont en train de profiter et tout ça, puis ils assoient là avec leurs enfants, whereas c'est vraiment le contraire. Moi, je n'ai aucun client qui ne travaille pas, sinon, si pas un, au moins 2 jobs. Donc, c'est vraiment pas vrai. Mais c'est ça l'image qu'on projette à la société, parce que c'est sûr, il y a un agenda qu'ils veulent faire avancer. Alors oui, et aussi parce que quand il y a une situation où quelqu'un va être sur le point d'être déporté, beaucoup de fois, l'avocat de cette personne cherche à médiatiser cet événement pour obtenir de l'intervention, parfois du ministre de l'Immigration, etc., comme récemment, c'était le cas avec un homme qui était sur le point de déportation. Son avocat a médiatisé le tout, puis le ministre de l'Immigration a intervenu vraiment en temps opportun pour arrêter ça. Je pense que c'était la même journée. Donc, oui, c'est ça les histoires qu'il voit dans les médias ou, comme j'ai dit, l'image qu'il portrait de ces gens-là. Donc, ils ont ce sentiment comme quoi, oui, on est là, on est en train de faire notre dossier, notre processus. On admet, puis tu sais, on convient que oui, c'est une société peut-être où on vit en sécurité, on peut travailler, subvenir à nos besoins. Mais est-ce qu'ils font partie de cette société? Non. Ils le savent tous. Ils savent qu'il y aura toujours une certaine limite qu'ils ne peuvent pas franchir. Malgré ce qu'ils aiment vraiment dire, c'est parler dans les nouvelles, ils disent « OK, l'intégration, l'établissement, l'assimilation ». Non, la réalité, c'est qu'il y a toujours cette ligne invisible que malgré ce que tu accomplis, ce que tu fais dans la société, toi, tu vas rester de ce bord, nous, on est de ce bord. Et c'est ça la réalité. Mais je dirais que la plupart des demandeurs d'asile, surtout, parce qu'ils proviennent de pays où ils n'ont pas ces chances-là, où vraiment ils vivent des horreurs, où leurs enfants sont en danger, parfois eux-mêmes ils sont en danger, leurs femmes sont en danger, ils pensent que, OK, ben ça c'est le mieux que je peux espérer. Vous savez, vivre ici en sécurité, subvenir à mes besoins, travailler, avoir mes enfants à l'école, pour moi, ça c'est comme, je veux plus rien plus que ça. T'sais? Alors, c'est pour ça aussi, ils ont une certaine réticence à pousser les choses plus loin, à vraiment s'obstiner, à contester des choses, à faire des plaintes, parce qu'ils disent, ils m'ont dit ça beaucoup de fois, mais OK, mais tu sais, maître, moi je suis là, je travaille, je suis bien. J'essaie de leur faire expliquer, c'est pas juste le fait que tu travailles que ça veut dire que tu es bien. Toi aussi, tu as des droits, et ces droits-là doivent être respectés. Et c'est ton droit que tes droits se font respecter. C'est vraiment un concept que je pense qu'ils ont de la difficulté à saisir à cause de leur vécu. Et c'est très, très triste que le standard maintenant est rendu tellement bas que quoi qu'il arrive ici, quoi qu'ils vivent au Canada, quoi qu'il y ait avec eux, c'est... Non, comme mon client qui a eu sa contravention lors de la pandémie, je l'ai dit, tu peux le contester. J'ai dit, ces choses-là, là, ils sont en train de les contester dans la cour. C'est pas vrai que tu vas aller payer 1 200 $ juste comme ça parce qu'ils te l'ont dit. Je connais quelques avocats qui sont en train de travailler sur ces dossiers-là, toutes les amendes, les contraventions qui ont été données durant la pandémie, le couvre-feu, etc. Et c'était ça sa réponse, c'était maître, non, je veux pas faire des problèmes. Je vais le payer, je vais prendre, je sais pas, un plan de paiement, faire ça par versement, mais moi, je veux pas contester, non, je veux pas aller à la cour pour ça, je veux pas de problème. C'est triste comme perception, mais c'est ça la réalité, oui, 100%, donc vous avez raison, Dalia, c'est sûr.
Puis j'ai l'impression, c'est aussi une peur, comme vous dites, c'est une peur d'être difficile un petit peu, tu sais, c'est comme, ben, j'ai déjà un travail, je suis en sécurité, tu sais, je vais pas faire le difficile et commencer à chialer, mais c'est pas question d'être difficile, c'est comme vous l'avez dit, vous avez ces droits-là, juste du fait que vous soyez sur le territoire canadien, vous avez ces droits-là, donc c'est sûr que c'est comme une autre perspective qu'ils ont. Puis c'est ça, malheureusement, bon, vous avez parlé de la pandémie, puis le couvre-feu, toutes les contraventions. Il y a aussi eu certaines personnes immigrantes qui ont vécu des situations de profilage racial, que ce soit comme il y avait un groupe de travailleurs migrants en Ontario qui ont vécu des situations de profilage. Il y a aussi un jeune immigrant qui était dans son auto, qui s'est fait arrêter par la police. Et la police commence à lui poser des questions sur son statut. Donc vous, est-ce que vous êtes résident permanent? Est-ce que vous êtes né ici? Alors que la police n'a pas à poser ces questions-là du tout lors d'une arrestation. Puis en fait, lui, il répondait, là, lui, il disait, oui, je vais à tel collège, tu sais, j'ai fait telle étude. Puis comme vous le dites, c'est comme, tu sais, ils sont comme prêts à répondre à toutes les questions pour pas justement avoir de problème. Donc, on le voit ici que c'est le cas. Puis, vous avez mentionné aussi que ils connaissent pas nécessairement leurs droits. Donc, face à une arrestation ou à une détention, c'est ça, j'imagine qu'il y a plusieurs, malheureusement, exemples où est-ce que ces personnes-là ne connaissent pas leurs droits ou ne savent pas trop comment réagir face à une arrestation ou une détention.
100%, 100% ce que vous dites, c'est la réalité. Oui, et je connais les deux incidents dont tu parles, le groupe de travailleurs migrants Ontario, je pense qu'ils sont tous fait arrêter pour un crime qui a été commis, ils ont pris des échantillons ADN. Je pense que c'est ça, oui, dont tu parles. Oui, c'est sûr, c'est dans toutes les nouvelles. Les gens qui se sont fait arrêter, eux, il y en avait plusieurs, par contre, récemment, durant la dernière année. Et oui, ils posent des questions sur leur statut migratoire au Canada. Oui, donc ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on abordait, nous, l'Association des avocats et avocates en droit d'immigration, Association québécoise, l'ACADI, et on a abordé ça durant la pandémie, surtout avec les acteurs de la société, la police, les organismes, etc. Et on avait vraiment poussé dans le temps pour que la police arrête de poser ces questions-là, parce que eux, ils ne sont pas Immigration Canada, ils ne sont pas les agents de services frontaliers, ils ne sont pas chargés de faire un contrôle du statut d'immigration de la personne. Tout ce qui est leur job, c'est d'avoir l'identité de la personne, s'assurer de l'identité, leur informer de la contravention qui a eu lieu et leur donner le droit au silence et le droit à l'avocat. Et parfois, même ça, ils omettent de le faire. Et la personne n'est pas au courant. Et comme vous dites, ils commencent à parler, à répondre à toutes les questions. Ils pensent que le droit au silence, le droit aux avocats, c'est quelque chose dans les films seulement, que ça ne s'applique pas à eux. Et je trouve que c'est là où les organismes comme la Clinique juridique de Saint-Michel ou la Clinique du Myland ou le PRAIDA ou la Maison d'Haïti, tous ces organismes-là, ils font vraiment du bon travail pour vraiment conscientiser et sensibiliser les immigrants dans les différents quartiers où ils opèrent pour vraiment leur faire connaître leurs droits en cas d'arrestation, en cas de détention, en cas d'altercation avec un membre du corps policier. Et c'est ça que ça revient toujours au point que je disais, il y a une grande ignorance autour de ça, autour de leurs droits, autour de ce qu'ils ont droit de faire ou de ne pas faire en cas d'arrestation. Et c'est juste, vous savez, c'est juste, comme ils disent, knowledge is power, right? C'est juste lorsque tu connais tes droits, lorsque tu sais ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, que tu connais tes limites, que tu connais les limites de l'autre personne devant toi, c'est là où tu ressens que tu as le pouvoir. Et tu peux te défendre. Mais sans la connaissance, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est pour ça que, vraiment, gros kudos à vous, là, la clinique juridique et à toute cette série que vous faites et tout ça. Et j'espère que ça rejoint beaucoup, beaucoup de personnes parce que c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire pour eux de connaître leurs droits, de savoir que, non, pas parce que tu es demandeur d'asile ici ou tu as un statut temporaire, c'est-à-dire on peut abuser de toi ou on peut te discriminer ou se comporter avec toi d'une manière raciste. Non, c'est pas vrai. Et que vous savez qu'eux, ils ont aussi les mêmes droits, les droits dans la Charte canadienne, les droits et libertés, là, ça s'applique à tout le monde. C'est pas juste pour les Canadiens. Dès que tu es sur le territoire du Canada, tu as droit à ces choses-là. Tu as le droit à la sécurité, tu as le droit à la vie. Ça, c'est des articles que nous, on argumente durant nos dossiers de demande d'asile parce qu'ils ont le droit à ces choses-là. Autre que la Charte sur les droits humains, aussi, ça s'applique. Le Canada est signataire à ça. Donc, oui, c'est beaucoup de choses que les gens connaissent pas. Et je trouve que c'est pour ça que c'est important d'avoir ces organismes, ces acteurs, ces intervenants avec qui ils ont le lien de confiance, qui peuvent approcher au cas où ils ont un tel problème.
Oui, je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que c'est à ce moment-là que le concept d'accès à la justice prend tout son sens. Donc, c'est quand les gens sont au courant de leurs droits, quand ils savent c'est quoi. Je trouve que c'est là que on peut vraiment aller dans le sens de l'accès à la justice. Et puis finalement, pour clore sur ce très beau sujet, cette très belle discussion, je voulais qu'on aborde les effets du profilage et de la discrimination systémique sur le sentiment d'appartenance à la société québécoise, la société canadienne. On reprend encore l'exemple de l'Ontario, qui énonce dans son préambule du Code des droits de la personne de favoriser l'instauration dans la province d'un climat où toutes les personnes se sentent égales aux autres, faisant partie intégrante de la collectivité et aptes à contribuer pleinement à l'avancement et au bien-être de la province. Donc, ça parle aussi du fait que l'Ontario est une terre d'accueil de plus de 2 millions de personnes qui appartiennent à des minorités visibles. Pourtant, il y a eu une enquête de la commission sur le profilage racial, puis ça révèle que les membres de ces communautés ne se sentent pas nécessairement citoyens, ils ne se sentent pas citoyens à part entière de la société. Le sentiment existe non seulement chez les immigrants qui viennent tout juste d'arriver, des nouveaux arrivants, mais aussi chez des immigrants de plusieurs générations. Donc, des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici. Est-ce que vous sentez que les communautés immigrantes et réfugiées peuvent, en raison de leur relation avec l'État et des différentes formes de discrimination qui peuvent être vécues, perdre ce sentiment d'appartenance et c'est ça, ne pas sentir qu'ils font réellement partie de la société québécoise et canadienne?
Oui, 100%. 100%. Écoute, c'est comme j'ai mentionné avant, les demandeurs d'asile, les immigrants qui viennent ici, ils respectent le Canada, le Québec pour les avoir accueillis, pour leur avoir donné la chance de bâtir une nouvelle vie. Mais ils vivent le sentiment d'appartenance. C'est vivre ici, être accueilli, c'est une chose, et ressentir comme quoi on appartient, comme si on est membre valorisé de la société, ça c'est autre chose. Et c'est la même chose qu'on soit, comme tu dis, arrivant récent ou bien les gens de plusieurs générations issus de minorités. On peut travailler, on peut contribuer à la société, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut avoir nos enfants, élever nos enfants, tout le monde est beau, tout le monde est content. Mais il y aura toujours ces événements dans la vie de tous les jours, les micro-agressions qui viennent te rappeler que tu ne fais pas partie de la société et tu ne le seras jamais. Et c'est vraiment, vraiment triste parce que c'est quelque chose que, pas juste mes clients, mais plusieurs gens de mon entourage ont ressenti, des gens, comme vous dites, qui sont nés et ont grandi ici. Et donc, c'est pas, je dirais, oui, on a encore un gros, gros, gros chemin à faire avec ça, avec l'intégration et je dirais, laisse faire l'intégration. Moi, je dirais vraiment le respect des minorités et la valorisation de ces membres-là en tant que membres de la société qui sont équivalents à d'autres. C'est vraiment, ça tourne autour de ça, de l'égalité. Est-ce que tu peux dire qu'on vit l'égalité si on n'a pas les mêmes opportunités d'emploi? Si on se fait traiter différemment dans les institutions d'éducation? Si on se fait traiter différemment par les autorités policières. Est-ce que ça, c'est une égalité? Non, pas selon moi, ça, c'est pas une égalité. Et les demandeurs d'asile, on ajouterait, une autre couche à ce sentiment-là qui est, ils vivent dans l'appréhension. Vous savez, mes clients, ils rentrent au Canada, ils font leur demande d'asile, c'est plusieurs années avant que leur demande soit entendue devant le juge. Si c'est accepté, on compte encore plusieurs années avant qu'ils obtiennent la résidence permanente. Et tout ce temps-là, c'est des gens qui sont en train de travailler, ils sont en train de payer des taxes, comme tout le monde. Mais ils n'ont pas le droit à avoir les allocations familiales. Ils n'ont pas le droit à avoir plusieurs services, je dirais même les services dans les CLSC. Il y en a, par exemple, avoir accès à un orthopédagogue, avoir accès à un intervenant psychosocial pour l'enfant. Ils n'ont pas accès à ça. Ils attendent la résidence permanente pour être éligibles, pour être admissibles. Ben, ça, c'est pas juste. C'est pas juste ça, vu que c'est une personne qui travaille, qui contribue, qui paye ses taxes comme tout le monde. Et lorsqu'ils inscrivent leurs enfants à la garderie ou à l'école, ils payent les mêmes frais que tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour eux. Vous savez, mais c'est toutes ces petites choses qui viennent leur rappeler que leur statut est différent, qu'ils sont différents. Et oui, c'est sûr, ça vient jouer sur le sentiment d'appartenance parce que rendus là, même s'ils arrivent éventuellement à devenir résidents permanents, à devenir même citoyens, ils savent et ils ont le sentiment qu'ils sont catégorisés comme étant « autres », entre guillemets. OK? Et je dirais que aussi, beaucoup d'entre eux, ils éprouvent le sentiment qu'ils sont au Canada parce qu'ils n'ont pas le choix. Que si leur pays leur offrait tous ces services, que si leur pays leur offrait un traitement qui est humanitaire, des opportunités d'emploi ou d'éducation, qu'ils ne seront même pas là. Mais là, on ne va pas rentrer dans le débat du colonialisme et comment ça a causé toutes les situations dans les autres pays, là. Et ça, c'est un gros sujet à part. Mais je le vois beaucoup. Je vois les effets. Je vois les effets du colonialisme avec mes clients demandeurs d'asile. Et là, ensuite, ils viennent ici et, vous savez, ils contribuent. Ils donnent de leurs ressources, de leur santé. On a vu ça durant la pandémie, les demandeurs d'asile qui travaillaient, la plupart d'entre eux, comme préposés bénéficiaires. Il y en a qui sont décédés de la COVID, en train de prendre soin des gens citoyens, québécois, canadiens. Et vous savez, c'était... Bon, et les avocats, les associations, les organismes, ils ont galéré avec le gouvernement du Québec pour qu'ils puissent faire ce programme avec eux. C'est quelque chose qu'ils ont demandé depuis le début de la pandémie. Finalement, avec les pourparlers entre le fédéral et le provincial, le fédéral était... peut-être un peu mieux. Ils étaient ouverts à régulariser toutes les gens qui ont travaillé durant la pandémie, mais le Québec a tellement, tellement poussé pour limiter les critères d'admissibilité du programme pour que finalement, ça soit seulement pour les gens qui ont travaillé dans un seul domaine qui est préposé aux bénéficiaires. Bien, j'ai des clients qui ont travaillé dans des usines de fabrication de viande ou bien dans le nettoyage. Eux aussi, ils ont mis leur vie à risque quand tout le monde était à la maison en train de prendre la PCU. Mais ils ne sont pas admissibles. Et ils sont venus vers moi, puis je leur ai dit, non, mais je ne suis pas admissible, j'ai travaillé tant d'heures, moi aussi j'ai travaillé durant la pandémie, je devais leur dire clairement, non, c'est de la discrimination. Le programme discrimine. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils veulent, c'est comme ça qu'ils veulent le faire. Et à cause de la politique, la dynamique entre le fédéral et le provincial, finalement, ils ont été, ils sont mis d'accord avec eux, puis c'est comme ça que le programme a été annoncé. Mais ce n'était pas ça au début. Au début, c'était vraiment l'intention d'inclure tout le monde. Alors, oui, alors quand tu vois que la société, ici le Québec, dans laquelle tu travailles, tu galères, tu payes tes taxes, tu te mets ta vie en danger, activement, ils travaillent à t'exclure. Ben, ils font ça activement à travers leur politique et à travers leurs conditions. Mais comment tu veux que cette personne-là se ressent? Et je vais te dire quelque chose... Léna, il y a beaucoup de mes clients préposés aux bénéficiaires après le débâcle là, du programme de régularisation. Ils ont quitté le Québec. Ils ont quitté, c'est des gens francophones, des demandeurs d'asile francophones, mais qu'ils ont maintenant ces qualifications. Ils disent, OK, ben je travaillais là. Premièrement, je suis payé beaucoup moins que dans d'autres provinces, parce que c'est toujours le cas au Québec. Et finalement, on m'a exclu. J'avais la chance d'obtenir la résidence permanente, on m'a exclu. Et si on voit beaucoup de pays européens, ils ont fait ce programme pour régulariser les migrants, les demandeurs d'asile qui ont travaillé dans les services essentiels durant la COVID. Donc oui, ils se sont vraiment sentis trahis, je dirais. C'est ça le mot. C'était vraiment un triste sentiment. C'était vraiment la trahison, vous savez. On leur dit dans leur face que vous n'êtes pas valorisé, vous n'êtes pas important. Vous pouvez mourir pour nous et ça ne veut rien dire. Et ils ont quitté. Ils ont quitté le Québec. Là, ils travaillent dans d'autres provinces. Et vous savez, je ne dirais pas qu'ils sont plus contents, là, mais au moins, ils sont payés à leur juste valeur. Mm-hmm. C'est mieux que rien. Et ils attendent maintenant leur chance pour, vous savez, aller en audience, aller devant le juge pour qu'on ait une décision sur leur demande d'asile. Donc ça, c'est juste un exemple récent.
Mm-hmm, ouais.
De comment on, vous savez, les politiques canadiennes, québécoises, ils cherchent à exclure ces gens-là et à toujours leur faire vivre ce sentiment comme quoi ils n'appartiennent pas dans le pays.
Puis si ce sentiment-là est poussé par le système, ben après c'est un peu normal que les individus ne se sentent pas inclus du tout là. Même s'ils essayent, même si, comme vous dites, ils travaillent, ils veulent. Ben à un moment donné, si on te rappelle toujours que non, finalement, on ne t'inclut pas dans notre société, ben c'est sûr qu'ils ne se sentiront pas inclus. Donc, C'est ça, c'est vraiment, je pense, c'est pour ça que c'est très important de parler de ces enjeux-là, puis de les lier un peu aux autres luttes qui sont faites contre la discrimination systémique, que ce soit comme le racisme systémique, le profilage racial. Donc l'importance un peu de voir tous les liens qui sont faits entre ces différentes luttes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Dalia ou Maître Alassane, vous voulez ajouter quoi que ce soit là-dessus.
Ah, je veux juste vous remercier pour le temps que vous avez pris. C'est très intéressant, mais malheureusement, j'ai encore le présentiment que même si la société québécoise ou canadienne font des efforts pour comme inclure les immigrants, je pense qu'à la fin de la journée, les immigrants vont jamais vraiment se sentir connectés à la société canadienne. Puis c'est ce que je trouve vraiment triste, parce que moi-même, je suis née au Québec, puis j'ai aucun sentiment d'appartenance ici, parce que quand on regarde ma peau, je sais déjà que les gens me jugent. Pas parce que je suis née au Québec, mais plutôt parce que j'ai des origines qui viennent d'ailleurs. Donc, sur ce, je vous remercie vraiment pour le travail que vous faites pour les gens qui nous ressemblent, puis les gens qui vivent des affaires chez Eutra. C'est vraiment ça. Merci, Maître Jumon.
Merci Dalia et merci Lina de m'avoir invité aujourd'hui. Et vraiment le travail que je fais, moi je considère pas ça c'est un travail, pour moi c'est ma vie. C'est ma passion, c'est ce que je fais et ça fait partie de mon identité. Et je le sens jamais comme c'est un travail, vraiment. Et je pense que je suis chanceuse de ce point-là. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie en entière sans vraiment trouver ce qui leur allume, ce qui leur passionne. Donc, je me compte parmi les chanceux. Mais vraiment, ça c'est un sujet qu'on peut parler en long et en large jusqu'à demain matin et on n'en finirait pas. Mais je crois que je pense juste le fait qu'il y a cette discussion-là sur une plateforme publique, ça c'est une bonne chose. Et comme j'ai dit, je pense que les organismes, ils font du très, très, très bon travail à avancer ces choses-là. Si pas peut-être faire des changements dans la politique, mais au moins, vous savez, conscientiser les gens. Et ça, déjà si on fait ça, c'est un gros, gros travail. C'est un gros avancement. C'est juste pour informer les gens de leurs droits et de les soutenir lorsqu'ils arrivent font face à un problème avec l'État, avec les services administratifs, avec les policiers. Déjà ça, je pense, ils apprécient ça énormément. Puis je vois à chaque jour comment c'est nécessaire. Alors, je vous remercie, vous deux, et toute la clinique juridique de Saint-Michel, toute l'équipe en entière, vous êtes formidables, et keep it up!
Merci beaucoup sur ces beaux mots. Je vous remercie, vous, les auditeurs. Et puis, comme je l'ai mentionné au début, c'est le dernier épisode pour la session d'automne, mais on revient en force dès le début du mois de janvier avec des nouveaux épisodes. Donc, restez à l'affût!
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leur communication par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org. KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
listening to. See, I can see it. CKUD in Montreal.
To make an appointment for your booster dose against COVID-19. Visit quebec.ca/COVID vaccine to follow the vaccination sequence plan for your area and book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID-19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the gouvernement du Québec.
Hi, History Makers. Eric here. While we're working on the next season of Making Gay History, I'd like to introduce you to my second favorite LGBTQ history podcast, The Logbooks. My friends Adam Smith and Tash Walker take us on a trip through time drawing on notes made by volunteers at Switchboard. That's the UK's LGBTQ helpline that's been serving the community for more than 45 years. I've laughed out loud and been moved to tears, and I'm always left wanting more. Season 3 of the Logbooks has just been released, but since December 1st is World AIDS Day, I'm sharing with you an earlier episode called Please Be Gentle. It's the first of three devoted to the HIV/AIDS crisis, a heartbreakingly beautiful piece that showcases what the Logbooks does so well. Have a listen, and since I know you'll want more, you can find all their episodes at thelogbooks.org or wherever you get your podcasts.